Bien chers frères et sœurs, depuis le Concile Vatican II, l'Église commence l'année par la fête de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. En même temps, c'est la fête de la circoncision du Seigneur, parce que, une semaine après sa naissance, Jésus, comme tout garçon juif, était circoncis. Et troisièmement, nous recevons en ce jour, le début de l'année, une bénédiction particulière. Nous l'invoquons, nous demandons au Seigneur de nous bénir tout au long de cette nouvelle année et de notre vie. Et ces trois dimensions de ce jour, de cette liturgie, sont toutes évoquées dans les belles lectures importantes de l'Écriture sainte. C'est la fête de Marie, Mère de Dieu et Mère Vierge. C'était la première fête que l'Église latine, l'Église de Rome, a instituée, a célébrée en honneur de Marie. C'est donc une fête très ancienne. L'évangéliste Luc nous montre que deux anges sont apparus à Marie et ensuite au berger pour expliquer la portée, l'importance de la naissance de cet enfant né de Marie, sa mère. Le premier ange est apparu à Marie personnellement, c'était l'ange Gabriel avant la naissance de Jésus. Et la deuxième apparition d'un ange s'est faite aux bergers qui, eux, sont allés à Bethléem, comme nous l'avons entendu, pour expliquer à Marie ce que cet ange leur avait communiqué. Et dans les deux apparitions, les deux messages de ces deux anges, Marie apprend la vocation de son enfant et elle apprend sa propre vocation. La vocation de son enfant, c'est qu'il sera le sauveur du peuple, mais aussi le sauveur de l'humanité, non seulement pour ce temps-ci dans lequel nous sommes sur cette terre, mais pour l'éternité. Et le résumé de ce message, c'est que les anges, devant les bergers, ont chanté gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes à qui Dieu veut donner sa grâce, c'est-à-dire qu'il veut sauver. Gloire à Dieu signifie Dieu se donne à connaître. Il montre qui il est. Et c'est la première signification de la vocation de Jésus. Il vient parler de Dieu. Comme l'Épître aux Hébreux, dans le verset de l'Alléluia, le dit, Dieu a parlé longtemps par des prophètes, mais à la fin, il a envoyé son Fils pour parler de Dieu, c'est-à-dire pour nous faire comprendre quelque chose de Dieu. Et il apporte la paix aux hommes que Dieu aime. La paix signifie la bonne entente, l'entente entre Dieu et les hommes. Et cela, non seulement pour ce temps-ci, mais pour l'éternité. Mais en même temps, les deux anges, Gabriel et l'ange qui a parlé au berger, parlent de la vocation de la mère de l'enfant pour lui faire comprendre pourquoi elle est mère tout en demeurant vierge. Donc que sa naissance est quelque chose de particulier, de merveilleux. C'est un signe, parce que tout ce qui est merveilleux, miracle, est d'abord un signe qui montre quelque chose. Et ce que cette naissance particulière, cet accouchement qui se fait parce que l'Esprit de Dieu a pris sous son ombre la mère, cela signifie que cette naissance vient de Dieu et donne la vie terrestre à un messager, à un envoyé de Dieu qui n'est pas simplement comme les prophètes, comme les messagers que Dieu se choisit de tout temps, dans l'Ancien Testament, mais aussi maintenant. Il est différent. Il est un envoyé de Dieu qui est unique. Et c'est pourquoi sa naissance doit être unique. Et cette unicité s'exprime, se montre dans la naissance d'une mère qui est vierge. Et cette deuxième apparition, ce deuxième messager, ce deuxième ange qui parle à Marie de la vocation de son fils et de sa propre vocation, ne parle plus comme Gabriel directement à Marie, il parle d'abord à des bergers. Nous l'avons entendu, et vous le savez, qui veille la nuit de la naissance de Jésus dans le champ près de Bethléem. Pourquoi ce deuxième message est transmis par deux messagers? D'abord par l'ange qui parle aux bergers, et ensuite par les bergers qui montent à Jérusalem et qui disent à Marie et à Joseph et aux autres personnes qui se trouve près de la mangeoire où est couché l'enfant, pourquoi ce message à travers l'ange et puis les bergers, c'est, nous le comprenons bien, les destinataires de ce message sont les humbles, parce que les bergers, c'est des personnes humbles du pays. Le message est destiné au peuple, mais comme représentant du peuple, ce ne sont pas ni les prêtres, ni le roi, c'est des personnes de la condition simple dans le peuple qui reçoivent ce message qui devra être transmis à toute la nation juive. C'est les humbles, parce que nous ne pouvons recevoir dans la foi, avec une foi réelle, que si nous sommes humbles. Humble signifie après avoir déposé l'orgueil, l'amour propre, l'idée que nous sommes au centre du monde et que tout doit être rapporté à nous. Tout ne doit pas être rapporté à nous, nous devons être rapportés à Dieu qui nous aime. Deuxième aspect de cette fête, la circoncision de Jésus. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, dit « Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, Marie, et soumis à la loi de Moïse. Quelquefois on dit à la loi de, à la loi juive, mais on devrait dire à la loi de Dieu. C'est Dieu qui a donné cette loi. Et le premier commandement de cette loi fut donné à Abraham, qu'il devait circoncire ses enfants masculins et que toute la descendance d'Abraham devait être circoncis. C'est pourquoi Jésus était circoncis. Il est un fils d'Abraham. Et cette circoncision signifie que la famille veut accueillir l'alliance de Dieu donnée à Abraham. Qu'est-ce que c'est cette alliance donnée à Abraham? C'est une promesse. C'est la promesse que Dieu prendra un soin particulier dans au milieu de l'humanité, de ce groupe humain qui est issu d'Abraham. Pour ce groupe d'hommes, pour cette communauté, Dieu aura un regard particulièrement affectueux. Il aime tous, et d'un amour réel et vrai, mais il aime cette famille-là d'un amour encore spécial. Et pour que les hommes puissent comprendre et accueillir cet amour spécial, ils ont besoin d'y être introduits. Et c'est le rôle de la loi, c'est une pédagogie que Dieu, au cours des années, a donnée à ce peuple que nous appelons le peuple israélite et juif. Il a donné lui-même, à travers les siècles, une loi qui conduit et introduit les hommes de ce peuple dans une communion étroite avec Dieu. Il faut apprendre cela. C'est le catéchisme de ce peuple. Il fallait qu'ils comprennent, et non seulement dans les idées, mais aussi dans une pratique, parce qu'on apprend en pratiquant. Et cette loi a un deuxième but, après l'éducation du peuple, c'est un peuple éduqué ainsi pour vivre en communion étroite avec Dieu, est un signe au milieu des autres nations qui peuvent regarder comment une vie commune se présente, comment elle est faite, quelle beauté elle a, et cela attirera les autres gens, les autres nations vers Dieu par l'intermédiaire de ce peuple. Et la vocation du Christ, selon saint Paul, c'est que il doit achever, mener à la pleine perfection cette éducation. C'est une éducation qui est première, en quelque sorte provisoire. Elle conduit, permettez-moi l'expression, à un premier diplôme, mais il faut aller plus loin et apprendre davantage quelle est la vie en communion avec Dieu, et ça se fait à travers le Christ, à travers ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, et à travers son aide qu'il nous donne. Et cette aide est complétée par l'Esprit Saint qui fait que nous n'oublions pas ce que le Christ veut nous donner. Et finalement, très brièvement, la dernière dimension de notre solennité d'aujourd'hui, la bénédiction. Que veut dire bénédiction? Bénédiction signifie tous les biens que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. C'est la santé, c'est la paix dont on jouit, que l'on goûte, c'est l'amitié, que l'on reçoit peut-être, c'est la bonté, donc toutes choses qui rendent la vie belle et plus humaine, mais que nous ne pouvons pas fabriquer, que nous ne pouvons pas acheter, que nous ne pouvons pas commander par nos propres, par notre propre autorité, nous ne pouvons que recevoir. Et à y regarder de près, on voit que ce sont les biens les meilleurs, les plus précieux que l'on puisse avoir. Et ces biens-là viennent du trésor de la bonté de Dieu. Et le trésor de la bonté de Dieu, c'est sa gloire. Et c'est pourquoi la bénédiction et le salut et la gloire de Dieu sont toutes, c'est la même réalité qui fonde cette communion entre Dieu et nous pour cette vie ici-bas et pour la vie éternelle pour laquelle le Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde.